Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, notre générique qui vous réveille comme tous les matins. Et vous allez découvrir dans quelques instants notre invité du jour. Vous allez le reconnaître, ce journaliste qui n'hésite pas à mouiller la chemise pour dégainer les enquêtes les plus fouillées possibles, quitte à braver tous les dangers. Il a couvert l'élection de Donald Trump, est allé explorer les favelas au Brésil, s'est rendu dans les endroits martyrisés par des djihadistes, des reportages édifiants qui lui ont permis de se faire une place unique dans le petit journal sur Canal+, puis quotidien sur TMC. Il vole désormais aussi de ses propres ailes et en cette fin de saison, après s'être intéressé à la crise de confiance entre la population et la police, il se demande désormais si au fond, nous ne sommes pas tous un petit peu réceptifs aux thèses conspirationnistes et complotistes. Bonjour Martin Veil.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Et merci.
On est ravis de vous avoir. Tous complotistes, point d'interrogation, hein, évidemment, on pose la question. C'est cette question que vous poserez ce soir à 21h15, 20, 25, vous savez pas quand Yann Barthès rendra l'entraide. Hein. Est-ce que quand c'est vous, il la rend un peu plus tôt, il est sympa ou pas?
Je sais pas, je lui dirai pour ce soir.
On dira pour ce soir. Donc ce sera juste après quotidien hein, sur TMC, une émission dans laquelle vous allez vous intéresser à toutes les théories du complot qui fleurissent maintenant depuis plusieurs semaines, de longs mois même, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé, et encore plus depuis la crise sanitaire. Déjà, pour poser les bases de votre documentaire, est-ce que être complotiste, c'est mal? Ou est-ce qu'il y a plusieurs degrés chez les complotistes, on va dire?
Alors, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas, ça dépend peut-être de la gradation. Ouais. L'idée, c'est d'expliquer qu'on peut tous, en fait, se faire avoir et que ça va très vite. Cette crise sanitaire, c'est un terreau fertile pour les théories complotistes parce que ça génère du doute. Et le doute, questionner, se poser des questions, en soi, c'est sain. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser ce doute chez les gens pour petit à petit les faire basculer.
Et pour instiller, en fait, ce qu'ils veulent...
Bah exactement, en fait, douter, c'est très sain. La suspicion systématique, par contre, je ne suis pas certain, moi, que ça fasse avancer les choses. Et puis, vous savez, quand on se pose des questions, quand on est face à une pandémie où on n'a pas de réponse, quand on a un gouvernement qui tâtonne, qui fait des erreurs... C'est une porte ouverte incroyable pour des personnes qui vont venir vous dire « Mais regarde, c'est bien la preuve qu'on nous manipule. » Et ça, c'est dangereux, je pense, oui.
Est-ce que votre documentaire, Martin, ce soir, il est là pour éduquer les gens, le faire comprendre ou pour alerter? Est-ce qu'il y a un double sens?
Peut-être un peu des deux. Je pense qu'il ne faut pas se mettre les gens à dos. Je pense qu'on peut débattre de ces sujets et qu'on peut discuter. Il ne faut pas se dire que quelqu'un qui va verser à un moment donné de sa vie dans une théorie complotiste est un complotiste, est un fou. Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout vrai. La plupart des personnes qui deviennent complotistes, entre guillemets, sont des personnes qui se posent des questions, qui veulent comprendre. Donc l'idée, ce n'est pas du tout de mettre qui que ce soit au banc de la société, c'est plus d'avoir une réflexion tous ensemble sur qui sont les personnes qui profitent, en fait, de ces théories complotistes.
À qui profite le crime? Vous avez vu, c'est du teasing, ça. Évidemment, on va en débattre dans quelques instants de ce documentaire de TMC ce soir. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Aimeriez-vous davantage le voir aux commandes d'émissions de ce type? Suivez-vous les enquêtes de Martin Veil depuis longtemps? Souscrivez-vous à des théories complotistes? N'hésitez pas, vous pouvez nous donner toutes vos suggestions, vos questions et vos remarques. Évidemment, il y répondra après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien.
Salut Nicolas, salut Martin.
Salut.
On démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir. Dites-nous tout, qui est sur le podium?
Eh bien, c'est TF1, voilà, on essaye de s'adapter à l'invité qui est en tête.
C'est souvent audiences. TF1, hein, on va dire.
La première chaîne de France dégainait l'épilogue de la série Sam. Les deux derniers épisodes de la cinquième saison ont rassemblé 4,5 millions de fidèles, 21% de part d'audience. France 2, quant à elle, accède à la deuxième marche du podium grâce à son téléfilm unitaire Les Sandales Blanches. La chanteuse Amel Bent, cette fois-ci, qui a endossé le rôle de l'héroïne a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs, 13,5% du public. Stéphane Bern enfile la médaille de bronze grâce à un numéro inédit de Secrets d'Histoire sur France 3 consacré à la courtisane Agnès Sorel. Et enfin, on termine avec Opération Renaissance sur M6 qui ne décolle pas et qui malheureusement baisse inexorablement semaine après semaine. L'émission où Karine Le Marchand suit des personnes atteintes d'obésité morbide a rassemblé 1,6 million de téléspectateurs, 7,2% du public.
Bon, ils sont quasi à peu près stables, hein, mais c'est vrai que de toute façon le sujet était difficile. On l'a vu aujourd'hui quand on fait les audiences tous les matins avec Damien, on se rend compte que la fiction, alors surtout la fiction française, écrase tout sur son passage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur sur les audiences? Et est-ce que vous, quand vous faites votre sujet, Martin, vous êtes quand même sur une chaîne commerciale qui appartient au groupe TF1.
Oui.
Est-ce que l'audience, chez vous, c'est un objectif? Est-ce que vous dites, voilà, j'ai fait ça avec ma dernière enquête, est-ce que je vais faire mieux ou est-ce que vous n'y pensez pas trop?
Si je vous donne une réponse tout à fait honnête, ce serait idiot de dire que ça importe pas du
tout.
Oui,
demain matin à 9h, vous regarderez attentivement.
Ce serait faux de vous dire qu'on fait nos enquêtes en se disant ça. Nous, on fait un boulot journalistique, on a la chance d'avoir un diffuseur qui nous fait confiance sur des... plein de thématiques, on m'a jamais dit non, ça on peut pas le faire, ou quand ça marche, eh ben, c'est bien et tout le monde est content, quand ça marche moins bien, j'ai la chance de, voilà, d'avoir des gens qui continuent de nous faire confiance et qui se disent qu'au-delà de l'audience, bah, c'est aussi bien d'avoir des émissions comme celle-là qui parlent de la société, donc voilà. Mais je vous avoue que je regarde pas, je scrute pas ce qui se passe. Ou...
Demain matin à 9h05, vous serez quand même...
Demain matin à
9h05, oui, demain matin, évidemment, oui. Évidemment, on est d'accord.
Évidemment, bah oui, parce que c'est important, c'est aussi ça qui nous permet de continuer à faire des émissions, donc il ne faut pas non plus être complètement naïf, mais c'est comme ça. Pour être tout à fait franc, ce n'est pas tellement moi que ça regarde, en fait.
Bien sûr, oui, c'est la chaîne. Ouais. Mais quand vous choisissez un sujet, vous pouvez savoir à l'avance, notamment avec la production chez Mongoumi, est-ce que ça sera plus porteur que d'autres ?
Ça, vous savez,
le complot, ça marche pas mal. Il y a beaucoup
d'émissions. Qui serait capable de savoir ce qui marche et ce qui marche pas, elle serait à la tête des chaînes de télé et de radio. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Ça me passe un peu au-dessus, pour être tout à fait franc. Voilà, nous, on fabrique un produit journalistique, on fait des enquêtes, on a la chance d'être diffusé sur une chaîne. Quand ça marche, even better. Et puis quand ça marche pas, nous, ça ne nous impacte pas tant que ça, au final, parce qu'on continue à faire la prochaine émission, et voilà.
Alors, des sujets qui marchent, Damien, il y en a, notamment l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès.
Ah oui, il marche.
Une nouvelle série documentaire est en préparation.
Oui, exactement. Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV, était l'invité de Culture Média hier matin sur Europe 1, et il a annoncé que la chaîne d'information en continu était en train de plancher sur plusieurs épisodes autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, vous le connaissez, hein, c'est cet homme suspecté d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants à Nantes, il y a 10 ans de ça déjà. Alors depuis, il fait l'objet de tous les fantasmes, hein, on ne l'a jamais retrouvé. D'ailleurs, en témoigne à l'été dernier le magazine Society, souvenez-vous, qui consacrait 2 numéros à Xavier Dupont de Ligonnès, 400 000 exemplaires hein, quand même.
Ça... Stock,
exactement. Et Marc-Olivier Fogiel, eh bien, il n'a pas précisé pour le moment la date de diffusion de cette future série documentaire. En revanche, il a indiqué que les équipes de BFM TV en réaliseraient d'autres, alors pas forcément sur Xavier Dupont de Ligonnès, parce que fin 2020, la chaîne diffusait pour la première fois la première série documentaire produite par les équipes de BFM TV, c'était sur l'affaire Alexia Daval et ça avait cartonné. En moyenne, plus d'1 million de téléspectateurs ont répondu présent, soit 4% du public, donc c'était un score assez encourageant pour eux.
C'est étonnant d'ailleurs, ces formats un peu enquête sur des chaînes d'infos pures, hein, ça marche puisqu'Alexia Daval avait marché. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de... C'est normal que ça intéresse les gens comme ça, l'affaire Dupont de Ligonnès, l'affaire Daval, ces grands faits divers là?
Oui, je crois qu'il y a toujours eu un appétit assez grand des gens pour les faits divers. Ça dépend peut-être de la manière de le raconter.
Bien sûr.
Vous parliez de l'enquête de Society. Enfin, c'est un plaisir à lire. C'est un excellent travail journalistique. C'est pas étonnant que ça intéresse les gens. Donc,
Vous pourriez vous y pencher là-dessus, sur des faits divers, par exemple, où c'est pas du tout... C'est aussi un travail de journaliste. Hein.
Faits diversiers, c'est un métier particulier. Il faut aimer ça, il faut avoir le goût d'eux. C'est de l'enquête. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes dedans. Je vous avoue que c'est pas trop mon champ d'expertise, moi. mais je comprends que ça passionne.
Ça, c'est certain, en tout cas. Donc, on finit ces infos médias, Damien, avec Marine Le Pen,
oui,
qui a adressé hier ses vœux à la presse.
Exactement. La présidente du Rassemblement national, vous le savez, a toujours eu des relations un petit peu houleuses hein, avec les médias. Et hier, alors qu'elle adressait ses vœux à la presse depuis le siège de son parti à Nanterre, Marine Le Pen a adressé quelques conseils aux journalistes dont rôle...
Alors, c'est quoi?
Alors, déjà, elle précise, elle arrive en amie, hein, le rôle n'a jamais été aussi indispensable dans cette période de confinement sanitaire et politique. Ça, c'est ce qu'elle a déclaré dans un premier temps. Elle appelle les médias à organiser des débats contradictoires apaisés, à traiter du fond afin que les journalistes comme les responsables politiques soient audibles. Et elle a confié aussi qu'elle avait, je la cite, une vision trop noble de la profession de journaliste pour réduire ce rôle à celui de chasseur de petites phrases, pêcheur de punchline et vecteur d'indignation trop nombreuses pour être efficiente et même sincère. Fin de citation.
On l'a vu, hein, la défiance envers les journalistes, elle est forte. Mm-hmm. Ça avait commencé depuis même les Gilets jaunes, hein, depuis un an ou 2 ans. Est-ce que cette défiance de la population à l'égard de journalistes, ça reste aussi un terreau fertile pour le complotisme?
Évidemment.
Ouais.
Je crois que les derniers sondages disent que 24 ou 25% de la population à peine font confiance aux journalistes. Évidemment que c'est un terreau fertile.
C'est incroyable. C'est autant que les politiques, c'est-à-dire qu'on est tombé très bas.
Oui, voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il y a des questions à se poser, une autocritique probablement à faire là-dessus, parce que c'est grave quand les citoyens ne font plus confiance en leurs journalistes. Le journalisme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un des piliers de la démocratie. Si on se retrouve incapable de s'accorder sur ce qu'est un fait en société, quand bien même les opinions divergent hein, ensuite, c'est la fin de la vie en démocratie. Donc oui, c'est inquiétant. Il faut s'en occuper, je pense.
Les conseils comme ça des hommes politiques, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Vous dites chacun son métier, on l'a beaucoup vu. Hein. Alors Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, les grands amis de Quotidien, par exemple, les deux meilleurs amis de Quotidien, sont toujours vraiment à la limite de la guerre hein, avec les journalistes. Vous le comprenez, ça? Ou alors, ils vont un peu, ils outrepassent un petit peu l'ordre.
Ça n'engage que moi, je pense que c'est une utilisation politique de la...
Les médias, c'est un jeu, vous voulez dire, avec eux ? C'est un jeu entre eux et les médias, c'est...
Je ne sais pas, moi je suis pas dans la tête de ces gens-là, donc je ne vais pas m'exprimer à leur place. Je ne sais pas si Marine Le Pen est la mieux placée pour voilà, expliquer aux uns et aux autres comment faire du journalisme, à chacun de se faire sa propre opinion.
Mais ça reste indispensable. Yann Barthès, dans une interview à TV Mag, il y a quelques mois, avait dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, les journalistes, à part Mélenchon et Le Pen, ne donnent pas grand-chose, ne disent plus beaucoup de choses.
Les hommes politiques.
Oui, les hommes politiques, pardon, effectivement. Et c'est notamment pour ça qu'il en reçoit plus sur le plateau de quotidien. Vous pensez qu'aujourd'hui, la parole politique, elle est complètement dévaluée, Martin ?
Dévaluée, je ne sais pas. Je travaille relativement peu, moi, sur la politique française, en tout cas.
Bien sûr. Vous en avez vu sur les plateaux de
bien
quotidien.
Bien sûr, j'en ai vu et puis on en a fait. Je ne saurais pas trop vous répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup de langues de bois ? Oui, c'est une évidence. On est à l'ère de la communication.
Hélas, oui. C'est vrai.
Voilà. Et sur cette idée d'une défiance journaliste et d'une crise de la population, il faut faire attention à l'utilisation qui peut en être faite à des fins politiques. Taper sur les journalistes, on l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump, ça marche. Ça marche, mais ça a des conséquences délétères derrière pour le pays.
Effectivement.
Donc, voilà.
Et on l'a bien vu avec cette élection. C'est fini, Damien ?
C'est terminé, Nicolas. Je suis en train de lire des questions. Là,
petit scoop pour demain. On va évidemment prendre toutes vos questions dans un instant. On est en direct avec Martin Veil. C'est tout de suite la grande interview du Buzz TV. Face à vous, Martin Veil, chers internautes, il va bien sûr répondre dans quelques instants à toutes vos questions qui commencent à arriver sur la page Facebook de TV Mag. On va bien sûr parler de cette nouvelle enquête intitulée « Tous complotistes ?». Point d'interrogation. Ce sera ce soir à 21h05, 10, 15 à peu près. Hein. Vous regardez quotidien, puis après vous enchaînez. Déjà, pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce qu'est la définition d'un complotiste ? On va parler tout à l'heure de plusieurs grades dans le complotisme. Pour vous, qu'est-ce que c'est un complotisme ?
Alors, je pense qu'on peut en donner beaucoup de définitions. Ouais. Moi, je ne suis pas un expert. De ce que je retiens, et notamment de toutes les personnes qu'on a pu interviewer dans le doc, c'est quelqu'un qui va penser qu'il y a une forme de complot caché, souvent ourdi par des puissants. Donc, en ce moment, c'est beaucoup ce phénomène d'élite. Et qui a un dessein qu'on ne révèle pas à la population, qui est dans leur intérêt, pas dans celui de la population.
Au sein du gouvernement ou pas forcément ? Ça peut être d'autres hommes puissants, des industriels,
des
milliardaires ?
Ça dépend. On retrouve de tout. C'est les puissants, effectivement. Mais ça peut être une élite. Elle peut être soit culturelle, elle peut être politique, elle peut être économique. On l'a vu, Bill Gates, c'est une des personnes dont les complotistes détestent le plus. Voilà, c'est vraiment cette idée qu'il y aurait une élite, des gens qui seraient un petit peu hors sol, si vous voulez, et qui auraient une vision du monde qu'ils souhaitent nous imposer sans nous le dire et qui se ferait à notre détriment pour leur bénéfice.
D'accord. Alors, un complotiste, hein, si on résume, c'est quelqu'un qui récuse assez systématiquement ou sporadiquement, d'ailleurs, la version qui est admise par le plus grand nombre. Est-ce que, par exemple, demain, j'émets un doute sur le vaccin contre le Covid, est-ce que ça fait de moi un complotisme ?
Absolument pas.
Non ?
Pas du tout. C'est très différent, en fait. Avoir des doutes et se poser des questions, c'est sain. C'est normal que les citoyens se posent des questions, surtout en période de pandémie. Tout le monde doute. Et je vais vous donner ma petite opinion. Je pense que le gouvernement aussi doute, tâtonne, enfin, on le voit bien. Donc, le doute, se questionner, se demander si c'est la bonne solution, tout ça, c'est sain. Se dire qu'il y a des scandales pharmaceutiques, c'est une évidence. Se dire que dans l'histoire, il y a eu des complots, c'est une évidence aussi. Ça, c'est sain de douter. En revanche, quand le doute se transforme en suspicion systématique, quand vous doutez, quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'en fait, lui a la solution, lui sait ce qu'il se passe, et à ce moment-là commence à vous dire que ce sont des choses qui sont cachées, sans avoir aucune preuve, en fait, là, on verse dans le complotisme. Donc, la frontière est fine et tout le monde peut basculer. Et c'est ce qu'on voit bien dans le documentaire. Il n'y a pas de profession qui peuvent passer entre les gouttes. On voit qu'il y a des profs qui peuvent devenir complotistes, on voit qu'il y a des journalistes. Après, ce n'est pas non plus un état de fait. On peut croire en une théorie complotiste et puis revenir à la raison. Et voilà, il n'y aurait pas... ce serait trop schématique de dire dès qu'on pense ou dès qu'on se dit qu'on pourrait croire à une théorie complotiste, ça fait de nous un complotiste.
Quels sont les témoins que vous avez rencontrés pour le documentaire ? On voit la bande-annonce passer derrière. Quel genre de personnes vous avez rencontrées ? Des responsables, justement, de ces types de complots, parce qu'il y en a plein qui restent cachés. On va parler de QAnon, notamment aux États-Unis. Vous les avez rencontrés comment et est-ce que ça a été compliqué ?
On a rencontré beaucoup de gens. On a pu discuter avec des personnes qui sont soit des créateurs, soit des propagateurs de théories complotistes. Ouais. On a notamment rencontré les fondateurs du principal site QAnon en France. Ça ne s'est pas forcément mal passé. On verra ensuite avec la diffusion. Il y a beaucoup de méfiance, c'est sûr. Nous, on est allé dans une démarche de dialogue, évidemment en expliquant qu'on ne souscrit absolument pas à ce qu'ils disent, mais en tout cas en essayant d'écouter, ce qui ne nous empêche pas derrière d'expliquer ce qu'on en pense et puis de dire que quand des choses sont fausses, le dire aussi.
Alors justement, QAnon, vous en parlez, c'était l'un des principaux instigateurs de l'attaque du Capitole, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette secte? Comment elle s'est créée? Par qui elle a été créée? Comment ça s'est répandu?
En fait, QAnon, c'est un mouvement qui a émergé dans la lignée de l'élection de Donald Trump.
À partir de 2016.
Voilà, avec une thèse structurante qui est que le monde est dirigé par une élite pédophile et sataniste, à l'intérieur de laquelle on retrouve beaucoup de gens et notamment beaucoup de membres du
Parti démocrate. Le monde, pas que les États-Unis.
C'est le monde, dans le monde, mais ça se joue beaucoup aux États-Unis. D'accord. Et que Donald Trump, en fait, serait un sauveur et que lui est là pour « drain the swamp » et puis pour s'occuper de ce qu'on appelle le « deep state » chez les QAnon. C'est l'idée qu'il y aurait un état dans l'état, un état profond, avec une élite qui nous manipulerait pour mener à bien leurs desseins et pour contrôler le monde, pour nous gouverner et puis pour continuer à pratiquer leur rituel pédo-sataniste. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de…
Oui, c'est fort.
Voilà.
Effectivement.
Il y a eu une montée en puissance aux États-Unis de ce mouvement-là. Trump.
Mais on sait d'où c'est parti, ou les fondateurs sont anonymes ou quoi?
La base de ce mouvement, c'est quelqu'un qui s'appelle Q. On ne sait pas exactement qui c'est. Donc, si on écoute les personnes QAnon, ce serait quelqu'un qui serait très haut placé.
Quelqu'un, par exemple. un petit Q, un grand Q.
Quelqu'un qui serait très haut placé dans l'administration américaine. Certains pensent que c'est éventuellement quelqu'un du FBI qui a commencé à balancer sur des réseaux des questions en disant aux gens renseignez-vous là-dessus, etc., etc. Et en fait, les personnes qui sont QAnon se considèrent comme des chercheurs de vérité et à partir de ces postes-là, vont eux essayer de trouver des preuves, soit de collusion, soit de… Voilà un petit peu comment ça fonctionne et comment c'est structuré. Et Donald Trump n'a jamais dit que… Il a eu une attitude qui était vraiment très ambiguë parce que ça fait du bien pour lui à sa base. Il n'a jamais pris ses distances, il l'a nourri et on l'a vu là le 6 janvier. Il a dit à ses partisans, allez au Capitole. Et en première ligne, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui étaient QAnon. Ouais.
Damien.
Oui, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Alors, il y a du monde. Hein. Salut Ghislaine, Pascal, Camille, Marlène, Joël, Madeleine. On va prendre une. Ah, il y a beaucoup de filles. Ah, non, il y a Régis. Il y a Régis qui vient. On va prendre une question de Sandrine qui souhaite savoir si vous ne craignez pas de nourrir le complotisme en détricotant les théories complotistes. C'est vrai que c'est une vaste question. C'est le serpent qui se mord la queue.
C'est une très bonne question. Je pense pas.
Ouais. Vous l'êtes posée quand même avant de
Oui, mais on se la pose, si vous voulez. C'est un petit peu toujours pareil. C'est que quand on va voir des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, ou est-ce que c'est leur donner un temps de parole, ou je pense moi que laisser ces gens-là sans leur apporter jamais de contradiction, ce qui est possible d'ailleurs via leur chaîne à eux, c'est pas une bonne idée non plus. C'est important au contraire, enfin en tout cas c'est important, les personnes qu'on interviewe dans le documentaire et qui eux justement cherchent à débunker toutes ces fake news ou toutes ces théories du complot, pensent que c'est très important au contraire d'expliquer ces théories-là, d'en prouver l'absurde et de le raconter aux gens, sinon on leur laisse un boulevard.
Et du coup, pour répondre exactement à la question…
C'était Sandrine.
C'était Sandrine.
Sur Twitter, oui, exactement.
D'accord. Donc, en tout cas, il vaut mieux, selon vous, leur laisser quand même la parole.
En tout cas, traiter ce sujet-là, ça me semble essentiel, oui. Et traiter ce sujet-là sans écouter ce qu'ils ont à dire, je pense que ce serait contre-productif.
Alors, en 2019, vous aviez présenté une autre émission qui s'appelait à l'époque « Martin Veil et le grand complot ». Quelles sont les différences principales avec cette émission? Qu'est-ce qui a changé véritablement en un an et demi à peu près, c'était en septembre 2019, le 11 septembre exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé à remettre le couvert de l'univers complotiste? Quelles sont les différences?
Un, ce coup-ci, ça se passe en France, parce qu'aujourd'hui, c'est chez nous. Et deux, les mouvements complotistes ont grimpé de manière vertigineuse en l'espace de 2 ans. Cette pandémie, je le disais tout à l'heure, c'est un terreau incroyablement fertile. Et on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de gens, beaucoup de Français qui croient à certaines de ces thèses-là. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau, de différent. Et dans la façon qu'on a de le traiter, nous, on avait traité d'autres théories complotistes, notamment sur les platistes ou… L'idée là, c'était de montrer que ça peut avoir des conséquences sur nos démocraties si on ne fait pas attention et que ça y est, c'est chez nous. Il y a un mouvement QAnon en France.
Ouais.
Bon, il n'a pas forcément une ampleur incroyable, mais depuis la crise, les vues de toutes ces vidéos-là ont explosé de manière exponentielle. Il faut qu'on s'en occupe pour justement ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle sont les États-Unis. Je ne dis pas que le modèle américain est exactement pareil que le modèle français, loin de là, mais qu'une théorie qui est quand même américano-centrée, hein, le mouvement QAnon, fasse des émules en France, c'est inquiétant.
Vous parliez effectivement de la multiplication de ces thèses depuis la crise sanitaire. C'est laquelle la thèse complotiste la plus répandue qu'on voit avec cette crise sanitaire, tout ce qui touche le Covid ?
Je pense que c'est l'idée que ce virus aurait été créé volontairement, pièce, voilà, soit par des industries pharmaceutiques dans le but de nous vendre des vaccins. D'accord. Ça peut aller jusqu'à l'idée que c'est Bill Gates qui est derrière pour nous inoculer des puces 5G. D'accord. Ça, peut-être que ça prête à sourire. Il y a de plus en plus de gens qui y croient. Voilà, c'est l'idée qu'en fait, on nous cache des choses.
D'accord. Selon une récente enquête IFOP, 21% des Français adhèrent au moins à 5 théories conspirationnistes et complotistes. Est-ce que ça vous semble à peu près la norme ? Alors qu'on dit adhérer, ce n'est pas forcément en faire la promotion, mais un Français sur 5, c'est déjà pas mal. Hein.
Je ne suis pas sondeur, donc ouais. en revanche, oui, elles sont partout aujourd'hui, les fake news et les théories complotistes. Vous savez, il y a un chiffre qui circule, une fake news se répand 6 fois plus vite sur Twitter qu'une information vérifiée. Des fake news, on y est tout le temps confronté. Quand on est journaliste, évidemment, on a un petit peu plus l'habitude, en tout cas, on lit l'actualité de manière un petit peu différente, mais je fais le pari qu'autour de vous, même dans votre famille ou dans vos amis, certains vont émettre des thèses. Ça ne veut pas dire qu'ils y croient mordicus. Et une fois qu'on parle avec eux, parfois justement ils changent d'avis. Mais un sondage, s'il est présenté comme ça aux enquêtés, ça ne m'étonne pas, oui.
C'est quoi la différence principale entre une fake news et un complot pour vous ? Est-ce que la fake news nourrit ou lance le complot, c'est ça
Je dirais que la fake news fait partie du complot, mais ce n'est pas la même chose. Fake news, c'est une fausse information et qui est souvent un dessin. Le complot, c'est la théorie qu'il y a derrière. Donc, on se doute bien que quand on est théoricien du complot, on va utiliser des fake news pour propager nos idées.
Absolument. Damien.
Allez, on va prendre une question de Pascal sur Twitter qui aimerait savoir votre regard quant à ces éditorialistes qui flirtent avec le complotisme et qui se trouvent sur des plateaux de télévision. Est-ce que, selon vous, ils ont leur place à la télévision ou bien il faudrait effectivement.
On parle de qui, Pascal ? Il donne des noms ?
Non, pas spécialement. Mais c'est vrai qu'il y a des journalistes, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, qui flirtent avec le complotisme aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là, au nom de la liberté d'expression, doivent être invités sur des plateaux ou bien est-ce qu'il faudrait les mettre à l'écart ?
Écoutez, ça les regarde. Je ne suis pas quelqu'un qui a souvent un avis tranché sur les choses. Je pense qu'on peut débattre de tout. Le problème, si vous voulez, quand on censure certains contenus, et notamment chez des personnes qui sont un petit peu complotistes, c'est que la petite musique derrière va systématiquement être « c'est bien parce qu'on dérange ». On nous demande de ne plus en parler.
Bien sûr.
Je pense que c'est à chaque chaîne, à chaque publication, d'être clair avec sa ligne et d'être, s'ils assument ce qu'ils portent à ce moment-là à l'antenne, très bien. Et puis peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, on leur dira vous avez vu quand même ce que vous racontiez. Voilà. Mais ça les regarde. Je ne sais pas, moi, franchement, et c'est une question dont on a pas mal débattu avec les experts qu'on interviewe sur les théories du complot. Difficile de savoir à quel point est-ce que le fait de censurer certains contenus est juste ou non. Et en même temps, c'est vrai que très souvent, on se dit certains contenus, on ne peut juste pas les diffuser. Voilà. Alors, c'est une des armes possibles.
Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas censurés, notamment c'est tous ces professeurs, chercheurs qui interviennent sur les plateaux depuis le début. Est-ce que lorsqu'on va voir un professeur, Didier Raoult par exemple, dire on peut soigner avec l'hydroxychloroquine et que le lendemain on voit un professeur éminent également de la Salpêtrière, pas du tout, ça ne marche pas, et que le lendemain on dit quelqu'un, comment est-ce qu'on peut croire en tant que téléspectateur ?
Mais c'est normal.
Mais lequel dit vrai ? Qui a raison ?
Mais c'est tout à fait compréhensible. Enfin, je veux dire, vous savez, on est comme tout le monde, hein, les journalistes, on a des doutes aussi, on trouve ça étonnant. Il y a eu l'histoire des masques avec le gouvernement, évidemment. Il fallait les mettre, puis pas les mettre. Puis on voit des épidémiologistes ou des scientifiques de renom s'écharper sur des plateaux. On se rend compte, en fait, je trouve tous globalement, qu'en fait, la science, il y a aussi, il y a des chapelles, il y a donc évidemment qu'il y a du doute, évidemment que moi, le seul truc que je dirais, c'est que je me méfie toujours un petit peu des gens qui ont raison avant tout le monde, surtout qui font des prédictions, des prophéties, les gens qui doutent un petit peu plus, notamment face à une pandémie dont au final on ne connaissait en tout cas à l'époque pas grand-chose, me semble plus digne d'écoute. Après, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, et vous avez raison, c'est que de voir des scientifiques ne pas être d'accord, c'est vertigineux pour les gens. De voir un gouvernement qui, on va dire, tâtonne, c'est vertigineux aussi pour les gens. Voilà. Donc, qu'il y ait du doute, que c'est évident. Mais justement, il ne faut pas que ce doute se transforme ou soit utilisé en tout cas par certains qui ont un dessein derrière.
Alors justement, ces gens qui ont un dessein derrière, souvent, ils ont des idées bien tranchées, bien arrêtées. Vous avez donné l'exemple des vaccins tout à l'heure qui seraient le complot mondial. admettons, je dîne demain avec un ami qui me dit qu'il croit dur comme fer à cette théorie-là, c'est les labos pharmaceutiques qui l'ont inventé pour vendre des vaccins, qu'est-ce qu'on peut lui dire en face? Quel type d'argument on peut tenir, sachant qu'en général, une fois que vous êtes parti dans cette idée du complot, on est assez hermétique à tout ce qui pourrait contrer cette idée, non?
Eh ben, c'est un peu pareil. Ouais. Il y a différentes façons de voir les choses. Il y en a certains qui pensent que c'est entre guillemets perdu, mais qui disent aussi que globalement, il y aurait 20% de la population qui serait très complotiste, 20% de la population qui serait imperméable et 60%
qui tâtonne entre
mouvant. Qui pourrait aussi bien passer d'un côté que de l'autre. C'est une des questions qu'on pose d'ailleurs. Comment est-ce qu'on discute du coup avec ces gens-là? Beaucoup de gens pensent que ça passe par la raison, que ça passe peut-être par prouver l'absurde. Ensuite, on est aussi parfois entre guillemets servi par l'actualité elle-même. On parlait de la mouvance QAnon. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui commencent à dire, notamment aux États-Unis, je me suis fait avoir. Parce que en gros, la passation de pouvoir s'est effectuée. Il ne s'est rien passé. Trump n'a rien fait. Donc, absolument vertigineux pour beaucoup de ces gens-là qui se disent, ah, en fait, je me suis fait avoir et qui reviennent vers la raison. Je pense que donner la parole à ces gens-là, par exemple, c'est bien, parce qu'eux peuvent expliquer comment est-ce qu'ils sont, entre guillemets, tombés dedans et comment est-ce qu'ils en sont sortis. Oui, moi, je pense qu'en expliquant les choses, en discutant sa marche, on tourne aussi une séquence dans les écoles. C'est hyper intéressant avec un journaliste qui s'appelle Thomas Huchon et qui organise tout un atelier, justement, pour expliquer aux enfants, voilà comment on peut se faire avoir. Voilà. Je pense que tout ça, ça fonctionne. En tout cas, il faut en parler, il faut discuter, même si c'est compliqué. Et oui, même si parfois on se retrouve face à des gens qui ne comprennent pas. Vous savez, quand on interview les QAnon, ils nous regardent limite avec un air un petit peu de pitié parce qu'ils sont tellement convaincus de leur fait qu'ils ont un peu de peine pour nous, qui nous faisons avoir chaque jour sans le savoir.
Oui, c'est ça, oui. c'est nous qui sommes en tort, évidemment.
Il peut y avoir aussi des cellules d'aide psychologique. Je pense qu'il y a… Voilà, la question se pose là, il faut réagir. Je pense que toutes les solutions sont bonnes ou en tout cas méritent d'être étudiées.
Alors, on l'a vu, le compte Twitter de Donald Trump a été suspendu, ouais, de manière pour l'instant indéterminée, ainsi que beaucoup d'autres comptes associés à la mouvance QAnon dont on a parlé ont été suspendus. Est-ce que cette censure par Twitter, une société privée, on le rappelle, est-ce que c'est une bonne réponse, Martin, au complotisme? Ou au moins arrêter la propagation de fake news? On sait que Donald Trump a été averti pendant des semaines. Il y avait des avertissements sous ses tweets disant que les informations étaient fausses.
Alors, encore une fois, difficile de donner une réponse. Je peux me baser sur ce que pas mal des personnes qu'on interviewe dans le documentaire nous ont dit. Ils ne sont pas forcément tous d'accord entre eux. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur la censure, en fait. C'est difficile. À quel moment est-ce qu'on estime qu'un contenu ne doit pas être là? Par exemple, des vidéos négationnistes sur YouTube, je pense que tout le monde peut ou prou est d'accord pour dire…
Est-ce que c'est illégal?
Jusqu'où est-ce qu'il faut que ça aille? Est-ce que c'est au réseau, effectivement, de décider de censurer ou non? Et en même temps, est-ce qu'ils doivent laisser des gens dire ça? Donald Trump, il a eu des tweets qui… Bon, on l'a bien vu, d'ailleurs. Ça a des conséquences, ça a des conséquences réelles. Je pense que c'est difficile de trancher la question comme ça en disant « il faut censurer ou pas censurer ». Je ne sais pas. Et ce n'est pas grave de dire qu'on ne sait pas. Voilà. Mais c'est des questions à se poser parce qu'à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution? Est-ce que ça doit venir de l'État ou de… Voilà, nous verrons. Je pense en fait que c'est un phénomène qui a existé de tout temps, mais qui aujourd'hui est particulièrement inquiétant et qu'en étant très tranché, en disant c'est comme ça qu'il faut faire ou… je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de… Je pense qu'il faut essayer plusieurs choses. Voilà.
En tout cas, c'est très bien de dire « je ne sais pas ». Vous avez raison. Damien, il y a des questions.
Ouais,
vous me dites « je ne sais pas », j'arrête.
Je ne sais pas. On va avoir une question de Chris sur Twitter qui aimerait savoir si vous avez vous-même cru déjà à une thèse conspirationniste. Vous disiez que ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que ça vous est arrivé?
Je ne crois pas.
Non,
Mais ça pourrait arriver. Je ne crois pas, mais ça pourrait arriver. Douter, si, on doute souvent. Ouais. Mais douter de quelque chose, douter d'un fait, douter de quelque chose, oui. En revanche, derrière, penser qu'il y a des forces sous-jacentes qui, j'avoue que moi, ça ne m'a pas trop traversé l'idée, mais pour un autre truc qu'on nous explique d'ailleurs dans le doc, une psychologue qui le dit très bien, c'est la notion de hasard. Pour beaucoup de complotistes, vous savez, c'est cette idée de comme par hasard, coïncidence. C'est le refus de la coïncidence, parce que la coïncidence fait peur. Moi, je crois effectivement, alors je crois évidemment qu'il y a parfois effectivement des agissements dans l'ombre de certains, c'est une évidence, etc. Je crois aussi au hasard. Voilà, au hasard et à l'erreur humaine. Je pense que les gens, que ce soit nos gouvernants, se trompent aussi, se plantent. Voilà. Et que c'est de leur faute peut-être derrière de très mal communiquer, pour l'expliquer, mais quand même, je fais un peu le bénéfice du doute ou du hasard. On se trompe tous, ça nous arrive tous les jours. Voilà, je trouve qu'il y a une hystérisation en fait de ces questions-là qui est un petit peu inquiétante. Et on le disait tout à l'heure, dire qu'on ne sait pas, c'est pas grave.
Non, il y a mille choses
qu'on
ne
sait pas. on voit les gens donner leur avis sur tout le temps. Bon.
Non, vous avez raison, c'est une belle part d'humilité
dont
on manque
expert.
Parfois,
non,
hélas.
Mais toutes les questions que vous posez, on les pose d'ailleurs aux intervenants qu'on a dans le documentaire. Et c'est hyper intéressant et je les laisse eux qui sont plus experts le dire. Mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux, c'est ça qui est intéressant aussi.
Alors, une autre question plus personnelle cette fois-ci, je me fais le relais de plein d'internautes. Quand vous étiez dans l'équipe du Petit Journal et de Quotidien ensuite, vous sillonnez le monde dans des zones parfois compliquées, des zones hostiles. Et beaucoup de gens se demandent où vous en êtes avec Quotidien, pourquoi on ne vous voit plus. Est-ce que vous allez refaire des reportages comme ça dans le magazine de Yann Martès
je travaille toujours avec Yann et avec Laurent Bon,
Bangoumi,
on produit ce documentaire-là pour TMC. Ça reste la famille, c'est juste que ça nous prend beaucoup de temps de faire nos docs. C'est en bonne intelligence, il faut voir ça comme une sorte de prolongement. Il y a Quotidien et puis il y a des déclinaisons de Quotidien, dont ces primes-là qui sont... un peu plus au long cours sur des thèmes d'actualité. Mais c'est mes collègues et mes patrons, on se voit toujours, je serai chez eux ce soir. Quand on était aux États-Unis pour le dernier Prime, on y était, c'est avec plaisir qu'on a couvert la présidentielle ensemble. Il n'y a pas de... mais aujourd'hui,
tout, tout va bien.
Truc,
mais effectivement, vous ne pouvez pas être partout.
Avoue,
en tout cas.
Je ne vais
vous
pas du tout faire Cosette, mais ça nous prend beaucoup de temps.
Donc, est-ce qu'il y a des enquêtes sur lesquelles vous planchez actuellement ou est-ce que, effectivement, le Covid, la crise sanitaire a mis un terme à certains de vos projets?
Non, on attend, on va voir. On réfléchit à des choses. On va voir ce sur quoi on part. Et effectivement, on regarde avec attention les conditions de tournage. Évidemment, le choix va un peu dépendre de ça.
Damien, on prend une dernière question.
Oui, allez, on va prendre une question de Maud qui aimerait savoir si vous avez été courtisé par d'autres chaînes. C'est vrai que vous êtes depuis des années maintenant avec Yann Barthès dans l'équipe de Bangoumi, vous venez de le rappeler. Est-ce que il arrive que parfois il y a des chaînes qui
comme
vous appellent?
Votre collègue Hugo Clément qui est parti sur France Télé.
Ça peut arriver.
C'est arrivé.
Comment?
Vous dites ça peut arriver. C'est arrivé ou pas?
C'est arrivé, mais enfin comme je pense beaucoup de gens et mais je suis bien là où je suis. Vraiment.
Pour l'instant, vous n'avez pas l'intention de partir vers d'autres horizons? Vous avez d'autres projets avec TMC?
Et puis ça se passe bien. Ouais. Et puis ils me font confiance et on fait cette émission-là.
Vous avez les moyens de les faire aussi, surtout?
Oui, on a les moyens de les faire. On a une grande liberté. C'est rare, en fait, d'être bien et d'être un peu fier de ce qu'on fait. C'est une émission qu'on fait beaucoup évoluer. Là, c'est la troisième année. Elle a énormément changé par rapport à la façon dont on la faisait avant. J'adore l'équipe avec laquelle je bosse. Je suis content, je suis heureux.
Donc tout va bien. Ouais. Merci beaucoup Hugo. On passe tout de suite à notre Hugo. J'ai dit Hugo, mais non, parce qu'on parlait d'Hugo Clément. Merci Martin. Vous a souvent confondu tous les deux. Quel regard vous portez sur Hugo Clément et ce qu'il fait maintenant sur France 2, puis maintenant sur France 5? Alors lui, il a un thème bien précis qui est l'écologie, l'environnement. Vous trouvez ça bien, justement, qu'on puisse s'engager comme ça, à fond, comme il le fait?
Alors, je le laisserai répondre. Ouais. Je n'aime pas parler pour les gens.
Ah non, mais vous, ce que vous pensez de lui, vous avez dû regarder, j'imagine, quelques-uns de ses reportages.
Mon avis, vous voulez
dire... Oui, votre avis
que...
sur lui, sur le parcours d'Hugo.
Je trouve ça super. Je trouve ça super, évidemment. Je trouve qu'en plus, les docs sont de grande qualité. Celui sur l'Amazonie qui a été diffusé dimanche, encore une fois.
Il a fait une bonne audience, presque 1 million.
À titre personnel, évidemment, je regarde avec attention. C'est intéressant, c'est bien fait.
Damien, allez, une petite question.
Je vais prendre une remarque. Un petit compliment sympathique, j'en profite. Il y a de la bienveillance dans ce monde de brutes. Jean-Marie,
il y a des critiques, allez-y.
Je salue Martin et sa pugnacité courageuse. Il incarne, selon moi, avec Hugo Clément, justement, la nouvelle génération de grands reporters. On serait heureux de le voir plus souvent. C'est un fait. Continue, Martin. Le boulot que tu fais est simplement fabuleux, avec tout le respect du vieux briscard retraité, mais toujours intéressé et attentif que je suis. C'est sympa.
C'est votre papa, c'est super, un oncle,
oui,
quelqu'un,
c'est
votre famille.
C'est mon père, en fait, je pense, qui
c'est évident,
a trollé votre chat.
C'est vrai que Jean-Marie W.
Il a dit que je faisais 1m95 aussi et que j'étais super bas. C'est mon père, ça, c'est mon père.
C'est pas votre papa, Jean-Marie. Non, c'est bon. Merci, Martin. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucre salé. Alors, sucré-salé, c'est comme dans la vie, c'est compliqué. Parfois, il faut faire des choix. Je vais vous faire deux propositions. Vous allez essayer de choisir. Je sais que ça va être très, très difficile. Donald Trump ou Joe Biden?
journalistiquement ou
Alors, voilà, journalistiquement ou personnellement
Joe Biden, pas Donald Trump. Voilà la réponse que je vous donne. Pas Donald Trump.
Pas Donald Trump. Hugo Clément ou Étienne Carbonnier?
Ouais, les deux sont des potes.
Ah bah oui, je sais.
Hugo,
je sais.
C'est un ami depuis 10 ans, donc Hugo.
Hugo.
Mais Étienne, on est très amis aussi. C'est dur, votre truc.
Ouais, je sais, c'est très dur. Marie-Sophie Lacaro ou Jean-Pierre Pernaut? Deux styles très différents pour un même journal.
Faut-il choisir c'est très rare. J'ai entendu Jean-Pierre Pernaut dire un truc très vrai. C'est rare que les transitions se passent aussi bien.
Ouais.
Voilà. Donc, bah, les deux.
D'accord. Donc, Marie-Sophie.
On a le droit, les deux.
Marie-Sophie Pernaut.
Sucré-salé, j'adore. Sucré-salé.
Sucré-salé.
En fait, j'ai envie de répondre.
Élise Lucet ou Edoui Plenel? Deux types de journalisme d'investigation que vous faites un peu assez différents.
Et vous allez me détester, je vais encore vous faire une réponse de Normand, mais les deux, parce que les deux apportent quelque chose, je pense, d'assez différent dans le paysage médiatique.
Mmh. Ouais. Très bien. Envoyé spécial ou enquête exclusive? Enquête exclusive, c'est Bernard Villardière.
Oui. Je regarde moi plus envoyé spécial, mais bon, c'est des goûts personnels.
Très bien. Il aime tout, hein. Martin.
Non, c'est pas ça, mais vous me devriez choisir
émission
entre
studio
des
ou
choses,
terrain.
C'est très difficile.
Bon, peut-être plus facile. Émission en studio ou terrain?
Moi, je suis plus reporter, ouais. Ouais. Oui, plus à l'aise sur le terrain. Enfin, c'est en tout cas, moi, c'est un des trucs que je préfère dans ce boulot, ouais.
Et États-Unis ou France? Vous avez beaucoup fait les États-Unis aussi. Les deux,
j'aime, c'est deux pays que j'aime énormément, mais moi qui travaille beaucoup à l'étranger depuis longtemps, beaucoup aux États-Unis aussi, je suis très heureux de faire des émissions sur la France.
C'est vrai?
Ouais, vraiment.
C'est bien, ça change un peu.
Ouais.
Trop bel et beau pays. Merci beaucoup, Martin Veil.
Merci à vous.
Je rappelle que vous incarnerez cette nouvelle enquête ce soir qu'on retrouvera tous complotistes, point d'interrogation. Vraiment un doc passionnant qu'on vous conseille tous de regarder, notamment pour vous faire votre propre idée aussi et comprendre un petit peu les mécanismes qui peuvent amener à ces thèses complotistes. Ce soir, 21h10-15 à peu près. Moi, je mise sur 15. Allez. Sur TNC, Yann Barthès va être sympa. Il vous rendre un petit peu plus tôt. Merci en tout cas,
merci
Martin,
beaucoup.
D'être venu.
Merci
Damien,
beaucoup.
On se retrouvera demain matin.
Oui, exactement.
Alors là, ça va être le feu sur le plateau.
Ah, là, demain, on retourne le plateau. On va passer du monde du journalisme à celui de la comédie avec deux acteurs qui ont l'habitude de monter sur scène, mais malheureusement, leur activité est à l'arrêt à cause du Covid-19.
Ils font beaucoup de télé aussi.
Ils font beaucoup de télé. Demain, nous recevrons les Chevaliers du Fiel. Ils sont assez rares parce que c'est vrai qu'ils n'habitent pas à Paris. Ils sont à Paris exceptionnellement demain. Ils viendront nous voir sur le plateau du Buzz TV.
N'oubliez pas toutes vos questions. Bien sûr, ils seront là en direct à partir de 10h. Bonne journée à toutes et à tous.